Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Encore une fois, bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Capi Service. Aujourd'hui, nous allons parler de la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers. Après le secondaire, de nombreux jeunes Congolais préfèrent aller étudier dans les instituts supérieurs et universités. Et pourtant, l'université n'est pas la solution pour tout le monde, dit comme le disent certains experts. Alors, il y a des jeunes qui ont des aptitudes en menuiserie, en cordonnerie, maçonnerie, mécanique auto, coupe et couture et autres. Ils peuvent s'orienter vers les formations professionnelles. Il y a aussi une grande masse des jeunes désœuvrés qui peut apprendre des métiers. Cependant, le pays ne dispose pas encore de nombreux centres de formation professionnelle. Alors, quelle stratégie mettre en place pour promouvoir la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers, que ces jeunes désœuvrés apprennent des métiers et qu'ils deviennent utiles pour le pays et qu'ils puissent gagner aussi leur vie? Eh bien, on en parle aujourd'hui avec notre invité, Monsieur Serge Bondedi, secrétaire général de l'ASBEL IMAE, Young Men Action for Education, l'association des l'action des jeunes pour l'éducation. Il est également coordonnateur de la campagne École Eza Mbongo Télé. L'école n'est pas un commerce. Monsieur Serge Bondé dit bonjour.
Bonjour, monsieur Jody.
Alors, la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers, quel état des lieux vous faites parce qu'il y a tout un ministère qui a été créé pour ça. Quel état des lieux vous faites de ces secteurs aujourd'hui?
Exactement, un ministère que IMAE a toujours considéré des chaînons manquants du système éducatif.
Chaînons manquants.
Voilà.
Qu'est-ce que
c'est là? Congolais.
Oui. C'est
pédagogique, c'est didactique. C'est comme votre chaînette. Vous voyez les différentes pièces qui composent l'ensemble, qui sont reliées.
Oui.
Alors, quand une manque, une pièce manque, c'est difficile de porter sa chaînette.
Oui.
Donc, c'est quand on part du système, c'est-à-dire il y a un composant. Il y a plusieurs circuits dans un système qui forment ensemble ces systèmes afin de produire un rendement, un service. Et c'est comme dans un poste téléviseur, vous avez les circuits d'alimentation, vous avez les circuits qui captent le signal pour diffusion. Bref, il y a beaucoup de circuits. Il y a les circuits son, il y a les circuits image et qui compose l'ensemble du circuit d'un poste téléviseur. S'il y a le circuit d'alimentation est défectueux, la télévision ne va pas s'allumer.
Ça va pas fonctionner.
Donc nous avons le système éducatif congolais et la vision du gouvernement à travers la stratégie sectorielle de la formation, de l'éducation et de la formation. Parmi cette vision du gouvernement est que le pays puisse atteindre la croissance économique. Et pour que le pays atteigne la croissance économique, il faut donc que le système éducatif fonctionne de manière à permettre au gouvernement d'atteindre cet objectif. Or, depuis l'adoption de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation, est-ce aujourd'hui nous avons atteint la croissance? Bon, ça c'est un sujet de débat, mais c'est que IMAE a constaté et qu'il manquait effectivement un circuit au sein du système pour que le système répondent aux exigences ou aux attentes du gouvernement et pourquoi pas de l'ensemble de la population.
Alors dites-nous aujourd'hui, est-ce que la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers se fait déjà? Combien de centres le gouvernement a mis en place à travers le pays où les jeunes peuvent aller apprendre des métiers?
En fait, depuis la nuit des temps, il existait toujours de centres de formation professionnelle, mais nous pouvons dire dans un état sauvage, permettez-moi le terme brut, dans un état sauvage, parce que s'il faut parler du sous-système de la formation professionnelle et apprentissage de métier, le pays s'est recherché. Et s'est recherché. On n'a pas peut-être de temps pour aller dans l'historique, mais il est quand même important de les relever. Et puisqu'il s'agit d'une question des politiques publiques, et en matière des politiques publiques, il y a d'abord la stabilisation du cadre normatif pour pouvoir permettre aux populations de bénéficier d'un service public. Et à plusieurs années, il y avait effectivement insuffisance du cadre normatif. Et par cadre normatif, vous avez tous les instruments légaux et réglementaires qui devraient encadrer. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, Imaye est très satisfait parce qu'il y a vraiment une nette évolution. Parce qu'avant, il n'y avait qu'une ordonnance de 1970 qui expliquait ce que c'est la formation professionnelle.
Oui.
Et c'est sur base de cette ordonnance des années 70 que l'INPP, par exemple, s'appuyait. Vous avez la loi cadre qui n'était pas beaucoup plus approfondie sur la question de la formation professionnelle et apprentissage de métier. Donc, il y avait nécessité d'un complément du cadre légal. Et au moment où nous parlons, vous avez madame le ministre de la formation professionnelle qui a pris un arrêté qui définit de manière claire comment doit fonctionner la formation professionnelle en République démocratique du Congo. Et au-delà de cet arrêté que venait de prendre madame le ministre de la formation professionnelle, vous avez une série de notes circulaires que le secrétaire général Jean-Marie Mangobé Bomongo venait une fois de plus de prendre. Et nous pensons que cela vient maintenant renforcer le cadre réglementaire de la formation professionnelle. Et nous pensons qu'ils vont pas se limiter là, parce que là, on a vu qu'on est en train de bâtir le sous-système au niveau de la base, ce qui est tout à fait normal, parce qu'il faut commencer de la base pour monter vers les sommets. Et au-delà de cet aspect du cadre légal qui est une partie plutôt intégrante dans les cadres normatifs, viendra, et nous le souhaitons et nous le pensons, une stratégie sous-sectorielle spécifique de la formation professionnelle. Je crois que ça a été abordé récemment dans une rencontre que les autorités du ministère de la formation professionnelle ont eu avec un certain nombre de partenaires techniques et financiers. Et au-delà de ça, c'est maintenant, puisque votre question est de savoir comment promouvoir effectivement cette formation
professionnelle et
l'apprentissage de métier. Et nous pensons que là, des défis sont énormes.
Oui. Vous avez dit qu'il y a maintenant un arrêté du ministre. Qu'est-ce qui est dit sur le plan pratique? Qu'est-ce que prévoit cet arrêté? Qu'est-ce qui est dit là-bas?
En fait, l'arrêté précise de manière claire.
Oui.
C'est que c'est une formation professionnelle et en termes de durée.
C'est quoi une formation professionnelle?
C'est-à-dire, un apprentissage de métier. Donc, vous entrez dans l'établissement de formation professionnelle. Pour une formation, je crois, c'est décliné en 4, de 2 ans, de différentes durées. Et vous en sortez avec une compétence. Et vous le savez, monsieur Jody, que la République démocratique du Congo, je crois l'avoir dit lors de notre dernière émission, que maintenant là, le défi de la République démocratique du Congo, c'est de disposer des hommes de métier. Parce que plus on a des hommes de métier, plus on crée la classe ouvrière. Je donne un exemple. Vous avez vu l'exemple avec les services nationaux qui a pris un grand nombre de jeunes qui étaient acquisés,
qui sont allés cultiver les champs,
cultiver les champs, le maïs, devenir des maçons, devenir des briquetiers, ainsi de suite. Donc, vous prenez un jeune et notre système éducatif. Je crois que vous l'avez même dit dans votre chapeau, qu'un bon nombre de jeunes, après avoir effectué les études secondaires, poursuivent les études d'humanité pour aller dans...
Ils préfèrent aller à l'université. Alors que certains ont des talents, ils peuvent faire...
Au-delà même des talents.
Devenir des hommes
de métier. Au-delà même des talents. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. On a beaucoup de juristes, on a beaucoup d'économistes, on a beaucoup de médecins. De médecins qui sont même devenus des infirmiers parce qu'il n'y a pas de travail. Et dans le même centre, dans les mêmes institutions hospitalières, combien savent réparer les outils, par exemple, orthopédiques? Combien savent maintenir les outils qui permettent effectivement aux professionnels de santé de s'en servir? Tout simplement parce que on a beaucoup plus privilégié, où le système a été incomplet, de manière en sorte que quand un enfant présente son tenacos, et c'est ça même l'esprit de la réforme. L'esprit de la réforme veut que quand un enfant présente son test national d'orientation professionnelle, tenacos, c'est pour que après ce test, qu'il y ait des chemins. Soit l'enfant continue vers les études humanité pour aller déboucher au niveau des études supérieures universitaires, ou soit il est déversé vers les centres de formation professionnelle et d'apprentissage de métiers.
Et quels sont les métiers qu'on peut apprendre dans ces centres?
Il y en a nombreux. Il y a autant de métiers. Il y en a en termes de centaines. Et je crois que le ministère de la formation professionnelle dispose déjà d'un draft ou d'un projet de répertoire opérationnel de métiers. Et nous, à notre niveau UMAIE, je vous informe que dans les jours à venir, nous allons organiser notre deuxième matinée de réflexion. On en avait fait une première en 2018. C'était effectivement pour interpeller les décideurs à mettre fin les conflits de compétences qui existaient avant et à comprendre l'importance et la nécessité de laisser le ministère de la formation professionnelle. Et la deuxième édition de cette matinée de réflexion sera exclusivement consacrée au développement et à l'essor de la formation professionnelle par rapport au système éducatif congolais. Je vous donne un exemple. Vous demandez à titre d'exemple le métier. Vous voyez par exemple dans nos cimetières. Parce que actuellement, on constate que il y a beaucoup de cimetières qui se créent.
Oui.
Mais est-ce que les gens savent que enterrer les gens c'est aussi un métier? Parce que quand on enterre, on est exposé à des risques divers. Donc, il faut que ceux qui peut-être l'exemple cruel est affreux, mais c'est pour démontrer.
C'est un métier qu'on peut apprendre.
C'est un métier.
Oui.
Et quand on est professionnel d'un métier, il faut être traité à ce titre. Et à ce titre, donc, bénéficier de tous les droits que ce métier vous en donne comme droit. Donc, il y a autant de métiers. On parle aujourd'hui de Quado. Mais laissez-moi, il y a quand même cet axiome qui dit il n'y a pas de sous métier.
Il n'y a que des sous gens.
Mais... aujourd'hui,
et le Quado, est-ce qu'il y a une école où on peut apprendre à devenir Quado?
Exactement. À Kinshasa, il y a, je crois bien, je crois bien, mais il faut maintenant qu'on crée ces centres de formation professionnelle. Voilà pourquoi Imaé va suivre de très près.
Même pour la maçonnerie, effectivement. L'électricité, la mécanique auto.
Aujourd'hui, c'est un peu de manière brute. Ou de manière trop généraliste. Et vous savez, il y a encore cet exemple qui dit quand on est généraliste, on est nulle part.
Il faut se spécialiser.
Il faut que notre système éducatif arrive à un moment où nous avons suffisamment des établissements de formation professionnelle et d'apprentissage de métier pour recevoir tous ces jeunes. Et il n'y a pas que les jeunes qui sortent des études secondaires. Vous avez aussi ces personnes aujourd'hui. Mais ce jeudi peut se dire, bon, je suis journaliste, mais je sens que le journalisme ne me met plus à l'aise.
Je peux aller
je peux muter un autre métier. Voilà. Donc, c'est un méga ministère. Et nous pensons qu'aujourd'hui, avec cette prise de conscience des autorités qui animent ces ministères, le pays, peut-être demain, avec le même élan, connaîtra de jours meilleurs. Et
donc,
nous,
dans la formation professionnelle et apprentissage des métiers, donc, on retrouve tous les métiers. C'est ce que les gens appellent à la cité, Missala Maboko.
Bon, ça, c'est une manière péjorative que Imaé, nous avons combattu à travers notre programme de promotion des sciences techniques et des outils technologiques.
Oui.
C'est ça, en fait, qui a décliné notre système éducatif, qui a fait que nous puissions sous-estimer, en fait, les professions de métier. Or, ce sont des professions de métier qui boostent l'économie nationale. Lorsqu'on fait voir à un enfant c'est quand même grave.
C'est comme certains parents qui envoyaient les filles aller faire la coupe et couture.
On pensait
parce qu'elles sont pas intelligentes.
Croit que la coupe et couture c'est un métier réservé aux gens moins intelligents, mais beaucoup, lorsqu'ils arrivent dans les écoles techniques, de toutes les manières, ils sont surpris. Moi-même qui vous parle, je suis ingénieur électromécanicien, mais vous avez des cours à caractère mathématique qui peuvent vous rendre dingue. Donc, c'est cette manière péjorative de sous-estimer le métier en concluant que ce sont les Moussalem Maboko, c'est une manière qu'on doit bannir. Si effectivement qu'on veut promouvoir la formation professionnelle et l'apprentissage de métier pour le développement de notre pays, nous devons valoriser. Et ça, c'est un travail que nous, la société civile, nous allons faire, la valorisation de métiers de métier, de la formation professionnelle. Et lorsqu'on demande, un enfant doit être fier de dire à ses collègues qui est mon papa, fait nourrir les gens de sa cité parce qu'il fabrique le pain. Donc il y a effectivement
parce qu'il est plombier, boulanger, menuisier, cordonnier.
Moi-même personnellement, oui. À un moment de ma vie, j'ai travaillé dans une grande boulangerie de la place et j'ai appris beaucoup de choses. Donc il faut que même au niveau du narratif, que nous puissions comprendre.
On doit changer, hein. arrêter de minimiser la formation professionnelle et les métiers. Merci Serge Bondedi. On va accueillir 3 auditeurs. Comment promouvoir la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers? Vous voulez participer à cette émission? Composez le 081-890-63-94.
Voilà Milambo pour Belongo.
Le sport sur Radio Okapi, c'est une question de conditions physiques. Imaginez partir de Kinshasa en 800 mètres et débarquer en Mbandaka en canoë-kayak, franchir les forêts de la province orientale en saut en hauteur, décrocher une médaille de bronze à Lubumbashi, traverser le lac Kivu à la nage, style papillon et j'en passe. Okapi Sport est un ensemble de correspondants et une équipe de présentateurs bien en forme pour vous apporter l'information sportive là où vous vous trouvez. Okapi Sport, car la passion du sport est sur Radio Okapi.
Comment promouvoir la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers? Justin, vous êtes à Fungurume, Platini Mbombo, Mbandaka, Baudouin, Kasumbalesa. Justin, bonjour. Depuis Fungurume, quelle est votre question?
Bonjour, monsieur Jobi, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Allez-y.
En tout cas, c'est une très pertinente sujet que vous avez choisi aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse pour ça.
Merci.
Nous voyons, il y a une ligne des gens qui pénalisent l'apprentissage professionnel, les informels, disons, la formation informelle. Il y a ce qui décourage. Premièrement, nous citons d'abord l'État, l'ONEM et même les lanceurs des appels d'offres. Pour être embauché quelque part, que ça soit en mécanique, que ça soit, je ne sais pas, en quel métier, il faut connaître d'abord l'anglais, l'informatique et l'attestation des services rendus au moins de 5 ans, c'est un atout. Donc les gens ne se confondent plus, ne perdent plus le temps d'aller faire le métier, puisqu'il peut être derrière, il peut étudier l'anglais, il peut étudier, je ne sais pas, être un politologue, et il est réduit en néant par l'appel d'offres. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, je vous dis, monsieur Jody, ici, chez nous, là où nous sommes à Fungurume, nous sommes dans la province du Lualaba. Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, vous ne maîtrisez pas l'informatique, donc vos titres scolaires sont réduits à zéro. Voilà déjà parmi les grands piliers qui découragent la formation informelle. Parce que quand vous êtes un mécanicien, massacrer les articles, ça ne prend pas la peine. Nous connaissons d'abord les mécaniciens, les hommes de métier, les menuisiers, les charpentiers, ne maîtrisent pas bien le français. Et à combien plus forte raison il va maîtriser l'anglais et l'informatique? Lui, à la place de là, il met le, il n'y a pas de problème, mais l'essentiel est d'épuiser ce qui est dans la tête de quelqu'un, son expérience et son expérience. Avec les nouveaux systèmes. Dans l'ancien temps, on suivait les écoles, les études ici chez nous au Congo, s'organisent à la forme de la Belgique. Donc la Belgique formait les gens qui devaient aller travailler dans des bureaux.
D'accord. Mais Justin, est-ce que là-bas à Fungurume, il y a plusieurs écoles d'apprentissage des métiers?
Non, il y en a pas. Et si vous, il y a pas des ateliers de pratique. Moi, je qui vous parle, je suis un politologue, mais j'ai tourné pour aller faire pour être un chauffeur. Quand je suis arrivé là-bas, on a éprouvé les conditions de la pratique. Il fallait se chercher. Et vous dites qu'il y a une formation informelle, peut-être un chauffeur sans l'atelier de pratique. Ce n'est pas viable. Donc l'État devrait mettre en disposition des outils de pratique et les écoles informelles. Et les gens là qui terminent, ils les orientent déjà à travailler. Nous prenons l'exemple de Kanyamakasese, qu'on a diabolisé partout. Or que c'est parmi les rares formations que nous devions bénéficier ici, chez nous, dans les lois là-bas, ou soit au Congo. Donc, notre invité là, qu'il nous dise, qu'il nous parle, s'il est de, il n'est pas de notre côté. Quels sont les quoi? Pourquoi il ne décourage pas les appels d'offres qui parlent sur les anciennetés, les attestations de services?
D'accord, merci beaucoup.
Pendant 5 ans.
D'accord. Merci Justin depuis Fungurume. D'accord, on va accueillir Platini Mbombo de Mbandaka. Bonjour.
Je vous dis bonjour, je salue l'invité.
Quelle est votre question, Platini?
Voilà, merci beaucoup aujourd'hui. Vraiment, nécessaire félicitation pour la thématique du jour. C'est très intéressant. Que Dieu vous accompagne vraiment. Aujourd'hui, moi, j'ai dit une chose, parce que j'ai bien suivi l'invité, comme il a dit. Je sais que ce qui décourage d'abord, un, les écoles techniques et aussi le parent pour envoyer les enfants au niveau des écoles techniques, d'abord, est-ce l'État eux-mêmes. Je suis d'accord avec mon ami qui vient de passer tout à l'heure. Il l'a dit. Et il a dit que c'est ça, des choses qui se passent, et même ici dans la ville de Mbandaka. S'il y a un offre, vous allez toujours voir qu'il faut voir ça, il faut telle date, il faut telle année, il faut connaître l'anglais, il faut connaître le français, etc. On a oublié qu'aujourd'hui, la technique, c'est une option que les enfants congolais peuvent vraiment faire ça. Je prends un exemple ici de la ville de Mbandaka. Si vous allez ici au niveau de l'IST Mbandaka, vous allez trouver qu'il y a des anglophones, il y a des pédagogues, il y a des psychologues, etc. Tout ça.
Mais il y a l'INPP en Mbandaka où on peut apprendre le métier.
L'INPP est ici, oui. L'INPP est ici aujourd'hui. L'INPP est ici avec un très beau bâtiment qu'on nous a donné comme cadeau. Un très beau bâtiment d'ailleurs, ici dans la ville de Mbandaka. Mais vous allez constater qu'il n'y a pas un bon nombre d'étudiants. Il n'y a pas un bon nombre d'élèves. Souvent, on dit, si quelqu'un étudie à l'INPP, on dit qu'il a un diplôme. Mais où les parents eux-mêmes découragent même les enfants. Moi, j'ai témoigné aujourd'hui, ici, dans la ville de Mbandaka. Il y a un enfant qui dit à son papa, papa, moi, je fais la mécanique. Son papa dit, oh non, mécanique, c'est ça, ma mère. Si on va tourner ici, on met un marteau, on va mettre un boucan, tu veux faire la psychologie, etc. L'enfant dit, papa, moi, je veux faire la mécanique parce que moi, je maîtrise bien la mécanique. Son papa a refusé. Et cet enfant, lui-même, est allé faire ce que papa a dit. Et à la fin du compte, il a échoué à l'examen d'État. Et à la fin du compte, encore, l'enfant a dit à papa, que non, papa, moi, je vais toujours retourner à la mécanique parce que la mécanique, c'est que moi, je maîtrise. Et cet enfant, il a fait la mécanique, il a eu au moins 85% de l'examen d'État. Il est parti à l'USTA, il a terminé, et aujourd'hui, il est revenu à Mbandaka, un grand ingénieur, plus que même Bayanaï. Voilà un peu ce qu'il dit. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est l'État lui-même, d'abord, c'est lui qui est d'abord censé à sensibiliser, à sensibiliser le peuple congolais.
D'accord. Vous avez aussi parlé des parents qui dénigrent les métiers, oui. L'apprentissage des métiers.
J'ai une question.
Laquelle?
J'ai une question à poser à monsieur l'invité.
Laquelle?
Alors, je ne sais pas. Est-ce que l'invité peut vraiment décourager certaines méthodes qui se passent, surtout dans les zones de l'emploi? Il n'y a pas quelqu'un qui fait la mécanique et tout ça. Il n'y en a pas. Ici, à Mbandaka, il n'y en a pas. Il y a toujours l'anglais, français.
D'accord. Merci beaucoup.
Vous avez tout cela, monsieur l'invité.
D'accord. Baudouin, vous êtes à Kasumbalesa. Bonjour. Quelle est votre question par rapport à la formation professionnelle?
Oui, bonjour, monsieur Jody. Bonjour, en tout cas. Bonjour, auditeur. Merci encore de m'avoir associé à ces débats très pertinents et très importants. En tout cas, je salue vraiment ces débats. Je vais dire de prime abord, tout part de ceux-là qui nous ont colonisés. Hein. Les colonisateurs, le Belge, malin qu'il était, il savait très bien que, malgré l'indépendance que l'homme congolais a eue, il reste toujours borné quelque part. Pourquoi? Parce que, comme venait de le dire Justin tantôt là, les Belges, au lieu de nous faciliter la tâche, afin que nous puissions être vraiment intéressés par la formation professionnelle, et ont voulu nous apporter ce qu'ils sont en train de faire là chez eux. Or, ici, chez nous, nous n'avons pas besoin de ça. Voilà un peu ce que je voulais dire dans un premier temps. Et ici, c'est vraiment la responsabilité de l'État. J'aime vraiment ce sujet ici, que les autorités qui nous suivent ici puissent quand même prendre ce sujet ici avec beaucoup plus de considération. Le pays ici, le Congo, tellement qu'il est vaste, et il ne peut pas se développer avec la bureaucratie. Tout ce que nous voyons là, tout ce que nous privilégions là, ce sont des distractions et c'est par rapport à cela que nous resterons toujours en arrière-plan. Moi, je pense que ici, pour la formation professionnelle, comme venait de le dire l'invité, qu'on puisse renforcer les cadres de régulation de ces ministères là-bas. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à cela? La formation professionnelle est négligée. C'est quoi le problème? On suppose que tous ceux-là qui font la formation professionnelle sont les moins intelligents, sont les négligés, sont les ceci, là. Donc, on suppose que ce sont les. Donc, il ne vaut absolument rien. Donc, il ne vaut absolument rien ces personnes-là qui font ces formations-là professionnelles. Ici, je voudrais demander à ce que le ministère des tutelles, comme il y a déjà un ministère, qu'on puisse valoriser les diplômes et les titres de cette formation-là professionnelle. Qu'on puisse avoir les mêmes niveaux que ceux-là qui font les humanités ou même les universités et qu'on soit, qui est cet échelonnement-là normalisé pourvu que nous puissions tous nous intéresser à cette situation-là. Ça, c'est de un. De deux, j'avais voulu suggérer aussi à l'invité que si on peut répertorier toutes les formations professionnelles possibles et les mettre en organisation pour leur protection. Aujourd'hui, nous constatons que la formation professionnelle n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde qui s'est fait spécialiste en cela, même sans avoir fait une formation quelconque dans les domaines dans lesquels il est en train d'intervenir. C'est comme par exemple aujourd'hui, vous allez voir si tout le monde qui se réveille un bon matin, il s'est fait maçon. Tout le monde qui se réveille un bon matin, il s'est fait boulanger. Tout le monde qui se réveille un bon matin, donc il y a un désordre total. Alors s'ils se mettaient en organisation, en mettant en exergue leur titre, leur diplôme, leur brevet, je ne sais pas moi, leur certificat, pour protéger leur métier là, en tout cas ça aura beaucoup plus de valeur, plutôt que laisser les champs libres à tout le monde en train de faire de n'importe quoi. C'est comme un exemple là, je peux donner là tantôt. Quand vous voyez à Bukavu là, au sud de Kivu, les ingénieurs en construction, je pense, après les dégâts qui se sont déroulés là, ils avaient pris maintenant conscience d'être en association et protéger leur métier. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que c'était n'importe qui pouvait se faire ingénieur et concevoir n'importe quel plan pour construire n'importe quel bâtiment, et par conséquent, il y a des dégâts qui viennent après. Et là, on est en train maintenant d'injurier ces gens-là. Quelle sorte d'ingénieurs que nous avons? Quelle sorte de professionnels?
D'accord. Merci beaucoup, Baudouin. On a compris votre préoccupation. Excellente journée. On va accueillir Yannick de Lumumbashi et Roger de Kinshasa. Yannick, bonjour. Quelle est votre question rapidement?
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à l'invité. Vraiment, je suis ravi d'entendre cette thématique aujourd'hui. Et j'aimerais poser juste une question, parce que j'ai suivi le débat depuis le début, mais j'ai été un peu perturbé par les appels que j'ai effectués qui n'étaient pas toujours pris en compte. Alors que, maintenant, je voudrais demander. Au début, là, je vous ai entendu poser la question à l'invité de savoir combien de centres le gouvernement a déjà mis en place au sein de notre République démocratique du Congo.
Oui.
Je n'ai pas écouté la réponse brève ou précise de la part de l'invité. S'il peut revenir et répondre d'abord à la question. Et je passe. Je suis ressortissant de Manono. Et on était dans un auditoire et on a reçu une invitation ou un communiqué qui venait de la part de gens de l'UNPP. Ils sont passés dans notre auditoire, ils ont dit non, nous venons avec une formation professionnelle pour tous ceux-là qui ont l'art ou qui ont les capacités ou les potentiels de naissance, pour ceux-là qui ont fait la technique, nous allons les accompagner à avoir une meilleure formation professionnelle. Moi, je dis, ça a été décevant. Tout a commencé au début très bien, mais ça arrive à un moment comme ça, les gens se sont inscrits, ils ont dit, ah bon, c'est une bonne chose. Ils se sont lancés. Et on regardait, nous, on voyait que si ça pouvait continuer, nous aussi, on va se lancer, même si on étudie d'autres choses, c'est une bonne chose pour notre vie. Mais quand on a vu que les choses n'avançaient plus, et jusque là, l'INPP ne fonctionne plus à Manono. Ça fait juste une année, et l'année n'est pas arrivée au bout. Ils ont bouffé l'argent des gens qui ont pris l'inscription et des formations qui sont légères, qui n'ont pas vraiment plu à la population. Et je ne sais pas comment le gouvernement prend ces choses.
Merci Yannick. Donc c'était une mauvaise expérience là-bas. L'invité va revenir là-dessus. Roger Marcel, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à la formation professionnelle et l'apprentissage des métiers?
Bonjour monsieur Jody et bonjour à notre invité. Ouais, merci beaucoup pour je trouve vraiment un sujet vraiment intéressant. Je retrouve vraiment que notre État commence aussi à se réveiller parce que tout part avec notre système éducatif. Aujourd'hui, vous allez, si vous regardez à l'UNICIN, regardez un peu dans toutes les facultés. Vous allez voir que si vous partez à la faculté de polytechnique, vous allez voir qu'il y a un peu des étudiants, puisque si vous allez à la faculté des droits, vous allez voir qu'il y a même des étudiants qui sont vraiment beaucoup. Les autres qui manquent même des endroits même où se mettre. Parce que c'est quoi, nous regardons, c'est l'État vraiment qui a vraiment négligé ce système. Regardez avec des exemples comme la Chine. À un certain moment, quand les Chinois ont pris vraiment des choses au sérieux avec les présence Mao de la Chine, ils ont envoyé un peu de Chinois ailleurs pour aller apprendre un peu des formations. Ils ont rentré, ils ont commencé à faire un peu des choses. Aujourd'hui, au Congo, si on cherche un peu d'ingénieurs ou bien construire des routes, on doit faire toujours les appels, appeler les Chinois, appeler les Égyptiens, appeler tous ces gens-là. Mais ce qui pouvait être quand même qu'on avait fait des Congolais, qui ont vraiment pris la formation, on pouvait éviter ça.
Voilà, généralement, on fait appel à la main-d'œuvre étrangère.
Ça pouvait aussi nous aider. Moi, je trouve un peu à ce secteur-là, c'est l'État vraiment qui a négligé. Parce que nous, quand on grandissait, on voyait comme ça. Regardez même avec la coupe et couture. Nous, on croyait qu'avec la coupe et couture, c'est pour les filles. Mais aujourd'hui, les gens qui ont fait la coupe et couture, ils font de l'argent. Mais tous ces travaux qu'on négligeait aujourd'hui, on voit qu'avec ces travaux, ces gens gagnent beaucoup d'argent.
Ils gagnent beaucoup d'argent avec cela.
Beaucoup d'argent. Aujourd'hui, je dois être maître, je dois être avocat. Mais c'est ce qu'on voit un peu, c'était vraiment des choses qu'on négligeait. Mais aujourd'hui, avec ces métiers-là, les gens...
Merci, Roger. Bon. Merci, Roger. Serge Bondé, vous avez suivi tous ces auditeurs. À vous la parole.
Ah oui, en tout cas. Je commencerai par Justin qui a parlé de l'anglais. Bon, il ne faut pas qu'on entretienne la confusion.
Oui.
Ça, c'est ce qu'on appelle les atouts. Lorsqu'on veut concourir à un poste, et auquel le poste qui a été disponibilisé par un employeur, ces derniers aura besoin d'un candidat le plus distillé possible, si je peux employer ces termes techniques, c'est-à-dire qui a beaucoup plus de compétences. Et donc je ne vois pas des raisons objectives pour lesquelles je peux m'acharner contre un promoteur d'une entreprise qui nécessite assez que ces travailleurs parlent aussi l'anglais. Ça fait partie des atouts. Quand on postule, je ne peux que les conseiller de suivre le
pas. Généralement, ces postes-là, ça concerne pas les hommes des métiers.
Dans l'industrie, ça peut être possible parce que je me rappelle au cours des échanges avec certains responsables de la FEC, ils nous ont fait savoir un cas similaire. On avait besoin d'un ajusteur, un soudeur. Parce que c'est différent entre un ajusteur et un soudeur. Un soudeur industriel, un mining qui avait besoin de ces soudeurs.
On a souvent besoin d'eux là-bas, dans le mining.
Il n'y avait pas, en tout cas, dans toute la ville de Lubumbashi, il n'y en avait pas. Ils ont recouru à la Malaisie.
Et c'est là-bas qu'on a trouvé les
soudeurs. Même dans le pays frontalier, il n'y en avait pas. Donc, pour dire, et à ce moment-là, comme il sera à contact avec les outils et les outillages qui sont généralement fabriqués, ou les notices sont généralement en anglais, aujourd'hui, on peut voir en mandarin, ainsi de suite, ou en allemand. Et donc, pour ne pas freiner le temps de production, l'entreprise ne peut que rechercher celui qui a ces atouts-là.
Donc les hommes de métier doivent aussi apprendre l'anglais.
C'est un atout. Il faut le faire. Et par rapport à ce sujet, je vous donne un exemple. Lorsque le pape était ici, vous avez vu que pendant la retransmission en direct de la cérémonie au Palais de la Nation, la RTNC n'avait pas un interprète pour interpréter les discours du pape. Il a fallu basculer vers KTO pour suivre l'interprétation en français. C'est-à-dire que la RTNC devrait engager un interprète de latin en français. Or, un interprète, c'est aussi un métier.
Ça s'apprend aussi.
Ça s'apprend.
D'accord. Et il a parlé des Kanyamaka CC. Est-ce qu'on peut dire que Kanyamaka CC est un centre de formation professionnelle ou bien les gens commencent directement à travailler et à produire?
Bon, en quelque sorte, oui, parce que il y a quand même beaucoup d'institutions qui développent, qui participent à la formation professionnelle. Mais je crois qu'avec le série qui est en train d'être implémenté actuellement, je crois que tout, déjà, il y a une circulaire du secrétaire général qui demande à ce qu'on enregistre tous les centres de formation professionnelle à travers le pays. Parce que
on doit d'abord commencer par faire un état des lieux.
Oui, il faut qu'on enregistre tous ces centres-là.
Savoir, il y en a combien,
parce que beaucoup sont des charlatans.
Oui.
Beaucoup sont des charlatans. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a parlé de Bukavu. C'est une ville que je visite souvent. Mais si vous êtes à Bukavu, vous allez trouver, papa jeudi, je sais que vous le savez, beaucoup, même des Congolais, font recours aux constructeurs rwandais. Parce qu'ils sont sérieux. Lorsqu'ils vous donnent son devis, ils vous demandent 500 sacs. Ce n'est pas une autoflagellation, mais nous devons changer des habitudes. Lorsqu'on a des maçons ou des constructeurs qui ne sont pas professionnels, ils vous font un devis de 500 sacs, vous achetez 100, le lendemain vous venez vous trouvez 20, vous ne savez pas où sont partis les 80. Tout simplement parce qu'on a affaire très souvent aux charlatans.
Mais là ce ne sont pas les maçons, je pense que c'est l'architecte qui fait les devis.
Bon, souvent l'architecte ne reste pas dans les chantiers. L'architecte dresse les plans et puis il conduit les travaux. Il y a un foisonnement de métiers qui interviennent là-dessus. Mmh. Donc voilà pourquoi il est nécessaire aujourd'hui de professionnaliser les choses.
Même ici à Kinshasa, on voit dans beaucoup de chantiers des jeunes gens qui viennent de la périphérie, qui viennent
Exactement.
De Massina, de Selembao, etc., qui viennent travailler dans des chantiers ici en ville. Mais est-ce qu'ils ont appris ça quelque part dans un centre? Les aides maçons.
Il y a un véritable besoin de la formation. Je peux vous dire une anecdote. C'est qui a concouru. Peut-être beaucoup les gens ne savent pas. Qu'est-ce qui a concouru à la création de ces ministères? À l'époque, l'ancien président Joseph Kabila, au lendemain du contrat chinois, il était sur le boulevard du 30 juin, au bord de son véhicule, il constate que le Caterpillar était conduit par un chinois. Il pose la question à la personne qui était avec lui dans la voiture. Mais comment cet engin est conduit par un chinois? On répond au président de la République, il n'y a pas la main d'œuvre. C'est cet élément qui a déclenché, selon beaucoup d'indiscrétions, nous gérons quand même Imaye, selon beaucoup d'indiscrétions, c'est cet élément qui a déclenché que l'ancien président appela à cette époque-là le ministre Marker Mwangu qui est en vie, et lui a instruit qu'on puisse résoudre cette affaire. Et c'est ça qui avait concouru à la cession à l'époque du ministère de l'enseignement, qui était ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Mmh. Donc c'est un peu ça. Donc il y a véritablement un besoin de la formation professionnelle.
Alors Platini Mbombo nous dit de Mbandaka que les parents eux-mêmes n'encouragent pas les enfants à aller apprendre les métiers. C'est négligé, c'est dévalorisé.
Effectivement, c'est le travail que nous, comme acteurs de la société civile, nous allons faire aux côtés de responsables de ce ministère. Il faut qu'il y ait changement d'habitude. Au-delà de messages qui dénigrent, mais il y a aussi des comportements. Parce que le ministère de la formation professionnelle ou l'apprentissage de métier, de manière générique, la formation professionnelle et l'apprentissage de métier n'a pas, je réponds même à une question qui a été posée à ce sens, n'a pas pour vocation de créer des salariés. A pour vocation de créer des entrepreneurs. Parce que lorsque on est compétent pour agir, on n'a pas besoin d'aller encore solliciter un emploi. Je donne un exemple par une anecdote. Il y avait une fille qui a fini ses études de modéliste à l'ISAM. Elle a dérangé ses parents pour qu'on lui organise une fête, comme tous les jeunes aiment le faire, à la fin des études, fête des collations.
Oui.
Et au lendemain de la fête, la fille s'est retrouvée même bredouille et en circulant à travers la ville avec des demandes d'emploi. Alors que si elle avait mis en contribution ces 600 dollars pour la fête, mais elle pouvait trouver une machine et commencer son business, et c'est la coupe et couture est parmi des métiers beaucoup plus florissants dans notre pays. Donc il y a vraiment un sérieux besoin de changement de comportement, d'habitude et de narratif.
Baudouin de Kasumbalé, ça nous dit qu'il faut arriver à valoriser les titres qui sont, par exemple, un enfant qui a terminé dans la formation professionnelle, son diplôme doit avoir le même titre, la même valeur que...
Exactement, c'est le souhait de Imaé, je crois que tout à l'heure nous allons le rappeler. Il y a en fait, c'est pourquoi nous parlons du système, c'est un système. Il y a de passerelles de collaboration en matière de pièces et titres scolaires et ou académiques ou de formation. Je crois qu'en synergie avec l'espace qui est le secrétariat permanent, qui joue en fait ces rôles-là de courroie de transmission, il va effectivement aider à ce que les choses avancent très bien de ce côté-là. Mais Baudouin a quand même dit quelque chose de qui est quand même qu'il faut quand même dire quelque chose.
Oui.
Lorsqu'il parle de tout part du colonisateur. Bon, moi je suis de ceux qui n'aiment pas être alarmiste. Je crois que c'est depuis 1960 que le colonisateur est parti. Nous devons être conséquents. Je ne crois pas que actuellement là, ce sont le colonisateur qui nous empêcherait de rendre la formation professionnelle gratuite.
Et après combien d'années? On va continuer à citer les colonisateurs.
C'est pas quand même sérieux. Ouais. Nous devons être responsables et conséquents vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, s'il y a eu de raté, c'était dans un contexte beaucoup plus précis, mais il faut aussi le dire. Je crois qu'il y a eu une semaine, j'étais en contact avec un papa de troisième âge qui m'a donné son expérience dans la formation professionnelle. Il était vitrier. Dans une société de Belges. Et il m'a beaucoup rencontré des choses. Donc,
qu'aujourd'hui il y a encore des vitriers, on forme des vitriers ici chez nous?
Je crois que c'est même en voie d'extinction parce que on a beaucoup plus des gens qui se forment en état, oui. Mais je pense que
qui se débrouillent, voilà, mais ils sont pas formés.
Et ils sont pas parce que nous voyons quand on construit des immeubles en ville, c'est la main d'œuvre étrangère qui vient. Mais on a quand même des Congolais qui sont aussi expérimentés, mais on voit, mais parfois.
Oui, Yannick est revenu sur la question. Combien de centres de formation nous avons? Ça, vous n'avez pas l'idée. Hein.
Non, en tout cas, voilà pourquoi Imaé va beaucoup plaider sur la gratuité de l'apprentissage de métiers en RDC. Ça, c'est un défi. Mais nous espérons que lorsque nous allons aussi plaider pour la gratuité de la formation professionnelle, un jour, on va pas nous brandir un communiqué où on va nous suspendre. Parce que parfois, il faut respecter ceux qui font un travail louable pour le pays.
Oui.
Il faut vraiment nous respecter.
Donc, alors, aujourd'hui, on peut dire que c'est l'INPP seulement qui est reconnu comme l'établissement officiel où on peut aller apprendre des métiers.
La
formation professionnelle.
Bon, tout part de l'INPP. Bon, il n'y a pas que l'INPP. Le ministère de la formation professionnelle, il y a beaucoup de privés qui, il y a des gens comme des CAMS qu'on voit à travers la ville, à travers le pays.
Où les gens apprennent à conduire.
À conduire.
Les auto-écoles.
Oui, il y a quand même un nombre important de, mais avec la vocation de la RDC, c'est vraiment insignifiant. C'est insignifiant. Il y a quelqu'un de Mandaka qui a appelé. Quand on est sur la RN1, tous ces grumes qui sont exportés, et après on nous revend les deux meubles qu'on fabrique, pas avec du bois, mais avec de matières composites, qui sont au fait le produit fini du bois, donc plutôt les déchets de bois, c'est parce qu'au départ, on n'a pas une main d'œuvre qui sait vraiment être valorisée.
Et pourtant, on a des bons menuisiers ici chez
Exactement.
Nous. Exactement. Qui peuvent faire des meubles, qui font des meubles de qualité.
Ce qui pose parfois problème, c'est juste la finition. D'où il faut vraiment un grand travail de valorisation de métiers en RDC. Tous ces ingénieux menuisiers qui sont au niveau des météos à travers la ville. Parfois, il manque les outils. Mais il faut aussi dire, effectivement, il faut qu'il y ait des changements d'habitude et des changements de comportement. Parce que si vous circulez dans la ville, papa, je dis, je vous mets un défi, entrez dans des ateliers de nos menuisiers, vous trouverez moins qui sont sérieux. C'est-à-dire un atelier où il a pavé, où vous avez un dépôt, où vous avez, là où il a rangé ses matériels, mais
il a les talents, mais il est mal organisé.
Très mal organisé.
Il n'est pas bien organisé.
Très mal organisé.
On va accueillir les derniers auditeurs. Maître Gaston de Kinshasa, Charles de Lumbashi et Godet de Kikwit. Soyez bref, s'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Maître Gaston, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour, Judy.
Rapidement.
Vous savez, lorsqu'on finit l'université, hein, on on doit entrer dans une profession et si on se forme dans cette profession, c'est pas mauvais. Comme nous, les avocats, on se forme, non? On lit formation professionnelle et tout en étant dans une profession, on se forme. Mais la formation professionnelle comme prône l'INPTP, non, de quoi, l'INPP, c'est dans le sens de ceux qui ont raté une formation quelconque dans la vie, qui n'ont suivi aucun cursus, ils peuvent se former dans des métiers et surtout aussi, nous qui avons, qui sommes dans...
Maître Gaston, quelle est la question rapidement?
Oui, mais je voulais faire voir une idée. Quand on dit les universitaires vont aller encore à l'INPP, c'est normal qu'un universitaire, ou part encore à l'INPP pour se former dans une profession. Pourtant, il doit engager une profession et s'il se forme comme nous, avocats, on se forme. Moi, je trouve inconcevable qu'aujourd'hui, l'INPP, on trouve les universitaires. Ceux qui ont fait l'institut.
D'accord, donc d'après vous, un universitaire ne peut pas encore retourner.
Il a raté une scolarité.
Oui.
Il doit peut-être apprendre un métier, comme les mécaniciens qu'on voit apprendre les choses dans l'État ici, qui renferment tous les chaussées. Et autres, les maçons, les maîtres maçons qu'on voit évoluer dans l'illégalité, les gens qui n'ont pas.
Merci, maître Gaston. Donc pour lui, il conçoit mal qu'un universitaire aille se faire aille apprendre les métiers. Pour lui, c'est pour ceux qui ont raté leur scolarité, ils peuvent aller là-bas. Charles, vous êtes à Lubumbashi. Bonjour. Quelle est votre question rapidement?
Bonjour, monsieur Jody. Bonjour aussi à l'invité. Moi, je pense ici chez nous, les jeunes sont souvent intéressés. Mais malheureusement, il y a les problèmes du prix. En tout cas, Lubumbashi, c'est toujours en dollars. Alors, si la conjoncture actuelle, on est en train de décourager à chaque minute qui passe les jeunes de poursuivre cette formation-là. Et puis, monsieur l'invité, quand vous donnez cette formation-là, est-ce que vous insistez aussi sur les problèmes d'être sérieux? En tout cas, l'homme congolais, on ne comprend pas. Aujourd'hui, il a un contrat avec vous. Il va essayer un peu de vous satisfaire. Mais arrivé demain, il a un autre contrat hier. Fonds des ciments, n'en parlons pas. Voilà ce qui pousse au bailleur des fonds de solliciter même la main d'œuvre étrangère. Moi, je ne sais pas si vous pouvez aussi inculquer quelques notions pour que les Congolais soient sérieux.
Merci Charles. Merci Charles. On va donner la parole à Godet de Kikwit. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour à l'invité. Vraiment, il faut organiser de pareilles émissions, c'est très impertinent pour le développement de notre pays. Vraiment, ici, à la ville de Kikwit, pour voir les universités, des options techniques, c'est très rare, monsieur le journaliste. Ça, c'est un développement de notre pays. Pour que nous soyons développés dans notre pays, donc à la RDC, il faut quand même d'abord de choisir de pareils métiers technique. Et je voulais poser un peu des questions à l'invité. Comment nous qui sommes à l'intérieur, comment nous pouvons avoir cette organisation de l'ONGE là, des métiers, de former les gens des métiers? Comment nous devons avoir ici à l'intérieur?
Mais là-bas, qui quitte, vous avez l'INPP, Godet.
L'INPP, et puis, en ce qui concerne, par exemple, la Belgérie, en ce qui concerne le métier de la maçonnerie, ça n'y est pas.
D'accord. Voilà, donc là-bas, il n'y a que les auto-écoles. D'accord, merci. Monsieur Serge Bonnédé.
Ah oui, je crois que Maître Gaston doit améliorer son appréhension. La formation professionnelle n'est pas faite pour des ratés de la société. C'est déjà ça le départ. On peut être aujourd'hui avocat, mais nous voyons, j'ai beaucoup de respect pour les avocats, même si je suis technicien, mais je suis aussi juriste. Je suis diplômé en droit. Mais aujourd'hui, on peut être avocat et puis on se décide demain de devenir soit magistrat, soit auxiliaire de la justice, greffier, ainsi de suite, inspecteur, agent de l'inspection de judiciaire. Et quand on mute, vous savez, on a
c'est ça le vrai problème. Les gens ne donnent pas de la valeur.
C'est ça.
À la formation technique.
Et nous restons pauvres à cause des mauvaises appréhensions. Vous avez quelqu'un avec des diplômes pompeux, mais qui
n'a pas travaillé,
mais qui ne sait même pas lier les deux bouts de moi. Par contre, il n'a pas à ouvrir sa bouche devant celui qu'on qualifie d'un quado. Vous savez, c'est
ce qu'on appelle les Batamisala Maboko.
C'est ce qu'on appelle les Batamisala Maboko. Vous savez, aujourd'hui, nos jeunes qui sont dans nos Andes, ceux qui font les ongles, Bana Manzaka.
Bana, oui.
Mais ce sont des patrons. Ce sont des patrons. Celui-là que vous dites que Hazard c'était raté, mais c'est celui-là que vous appelez si vous voulez aller dans une fête, madame ne va pas sortir parce qu'il vient pas. Donc maître doit changer sa conception. Les choses ont évolué dans le monde. Il faut quitter ces conceptions colonialisées comme quelqu'un a dit ici. Donc c'est comme ça que ça un système éducatif fonctionne. Soit vous allez vers le long cursus, soit vous avez des compétents, mais c'est qui gère le pays aujourd'hui? La plupart, parce que c'est la diaspora qui est actuellement, mais beaucoup ont fait fortune dans ces pays, ils ont construit de flats dans ces pays, parce qu'ils sont des hommes de métier en Europe. Donc, il faut vraiment changer cette façon de voir les choses. L'INPP revient. Voilà. L'INPP relève du ministère du Travail. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais
il y a besoin d'avoir beaucoup de construire beaucoup de centres.
Le PD, TESA 45 territoires prévoit des chambres de métier et des centres de formation à travers les territoires. Mmh. Et je crois que ici, voilà pourquoi nous appelons. Je dois clarifier cette pensée. Quand j'ai dit la gratuité des métiers, les gens vont risquer de dire que Imaï va encore dans cette histoire à la formation. C'est-à-dire que l'État mette beaucoup de moyens pour permettre effectivement aux jeunes, à nos mamans, à nos déplacés de guerre, d'apprendre les métiers, parce que s'il y a beaucoup...
Les chégués, c'est qu'on qualifie les enfants de la rue.
Des enfants de la rue.
Les jeunes désœuvrés.
Les jeunes désœuvrés. Il y en a autant. Il y a des gens qui doivent muter. Il est économiste, mais depuis qu'il a un diplôme de licence. Il est toujours au chômage. Tous ces gens ont besoin de muter vers le métier de manière à sorte qu'ils soient producteurs de richesses, afin qu'ils soient utiles à leur famille et à
la société.
Et à la société. Sinon, on est licencié.
Et puis, on est au chômage, on n'a pas d'argent.
C'est honteux.
Voilà. Merci beaucoup, Serge Bondedi, secrétaire général de l'ASBL IMAE, Young Men Action for Education, et coordonnateur de la campagne Ecoleza Mumbongo Teyi.